Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Pascal Ferrand est diplômé de l'IDEC, tout comme Pierre Thévidic.
C'est quand même rare qu'on soit tous réunis et je ne résiste pas à vous lire un petit texte que j'ai écrit à propos de toute autre chose. Nous sommes nombreux dans cette salle à être comédiens, techniciens ou réalisateurs de cinéma. C'est l'alliance de nos forces, de nos talents et de nos singularités qui fabrique chaque film que produit le cinéma français. Par ailleurs, nous avons un statut commun, nous sommes intermittents du spectacle. Certains d'entre nous sont indemnisés, d'autres non, soit parce qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment, soit à l'inverse parce que leurs salaires sont trop élevés pour être indemnisés dans les périodes non travaillées. C'est un statut unique au monde. Pendant longtemps, il était remarquable parce qu'il réussissait, tout en prenant en compte la spécificité de nos métiers, à atténuer un peu, un tout petit peu, la très grande disparité de revenus dans les milieux artistiques. C'était alors un système mutualisé. Il produisait une forme très concrète de solidarité entre les différents acteurs de la chaîne de fabrication d'un film et aussi entre les générations. Depuis des années, le MEDEF s'acharne à mettre à mal ce statut en s'attaquant par tous les moyens possibles à la philosophie qui a présidé à sa fondation. Aujourd'hui, il y est presque arrivé. De réforme en nouveau protocole, il est arrivé à transformer un système mutualisé en système capitalisé, et cela change tout. Cela veut dire, par exemple, que le montant des indemnités n'est plus calculé sur la base de la fonction de son bénéficiaire, mais exclusivement sur le montant de son salaire. Et plus ce salaire est haut, plus haut sera le montant de ses indemnités. Et on en arrive à une absurdité complète du système où, sous couvert de résorber un déficit, on exclut les plus pauvres pour mieux indemniser les plus riches. Or, au même moment, exactement, à un autre bout de la chaîne de fabrication des films, d'autres causes produisent les mêmes effets. Je veux parler du système de financement des films qui aboutit d'un côté à des films de plus en plus riches et de l'autre à des films extrêmement pauvres. Cette fracture est récente dans l'histoire du cinéma français. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ce qu'on appelait les films du milieu, justement parce qu'ils n'étaient ni très riches ni très pauvres, était même une sorte de marque de fabrique de ce que le cinéma français produisait de meilleur. Leurs auteurs, de Renoir à François Truffaut, de Jacques Becker à Alain Resnais, avaient la plus haute opinion des spectateurs à qui ils s'adressaient et la plus grande ambition pour l'art cinématographique. Ils avaient aussi, bon an mal an, les moyens financiers de leurs ambitions. Or, ce sont ces films-là, ceux-là précisément, que le système de financement actuel et en premier lieu les chaînes de télévision s'emploient très méthodiquement à faire disparaître. En assimilant les films à vocation artistique aux films pauvres et les films de divertissement aux films riches, en cloisonnant les deux catégories, en rendant quasi impossible pour un cinéaste d'aujourd'hui le passage d'une catégorie à une autre, le système actuel trahit l'héritage des plus grands cinéastes français et leur volonté acharnée de ne jamais dissocier création cinématographique, point de vue personnel et adresse au plus grand nombre. Ce faisant, il défait maille après maille le goût des spectateurs alors même que pendant des décennies, le public français était considéré comme le plus curieux, le plus exigeant et le plus cinéphile du monde. Ici comme ailleurs, la violence économique commence par tirer vers le bas le goût du public, puis cherche à nous opposer. Elle n'est pas loin d'y arriver. Les deux systèmes de solidarité entre les films eux-mêmes et entre ceux qui les font, ces deux systèmes qui faisaient tenir ensemble le cinéma français, sont au bord de la rupture. Alors, peut-être est-il temps de nous réveiller. Peut-être est-il temps de nous dire que notre amour individuel pour le cinéma, aussi puissant soit-il, n'y suffira pas. Peut-être est-il temps de se battre très méthodiquement, nous aussi, pour refonder des systèmes de solidarité mis à mal et restaurer les conditions de production et de distribution de films qui, tout en donnant à voir la complexité du monde, allient ambition artistique et plaisir du spectacle. Nous n'y arriverons pas, bien sûr, sans une forme de volonté politique d'où qu'elle vienne. Or, sur de tels sujets, force est de constater que celle-ci est désespérément muette. Mais rassurons-nous, il reste 55 jours aux candidats à l'élection présidentielle pour oser prononcer le mot « culture ».
Et oui, c'était Pascal Ferrand qui représentait le film Lady Chatterley à la cérémonie des Césars, et donc qui parlait donc évidemment des intermittents du spectacle. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission d'AC. AC, c'est Agir ensemble contre le chômage. C'est Gilles au micro avec Ludo et Christophe. Bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et toujours Claude à la technique. Très bien. Alors, vous voulez dire deux mots sur la cérémonie des Césars et puis l'intervention?
Alors, en fait, après cette intervention-là, il y a rien à dire, quoi.
Oui, bien sûr.
La seule chose qu'on peut peut-être ajouter, c'est que finalement, les grands médias, on va dire ça comme ça, n'ont retenu qu'une phrase, que le mot de la fin, c'est-à-dire il reste 50 jours au candidat pour prononcer le mot de culture. Et par là même, ils ont vidé de son contenu tout son discours, qui est excellent et qui explique Absolument. Bien le drame à la fois des intermittents et puis aussi l'état du cinéma français. Et bah, une fois de plus, on a un exemple de ce que les médias font quand ils montrent quelque chose et qu'ils ne montrent pas le reste, et du détournement de propos, que
d'information surtout,
du détournement d'information, de l'absence d'information par volonté de réduire au plus simple le message.
Oui, il y a effectivement ça, mais il y a un deuxième élément, c'est que cette dame qui est donc, je crois, la réalisatrice du film Lady Chatterley dénonce le système complètement pervers qui a été mis en place sous injonction du MEDEF, je le rappelle, hein, par le gouvernement UMP, c'est une réalité objective. Et au départ, on avait signalé, je crois, il y a quelques semaines, que la fameuse réforme de 2003 qui devait, soi-disant, faire des économies au niveau de ce régime avait été nulle, caduque.
Oui, alors, elle n'avait pas arrangé le système. Elle n'avait pas rendu le système bénéficiaire.
Parce que effectivement, au départ, je le rappelle, il y avait près de 850 millions d'euros de déficit au niveau du régime d'intermittent du spectacle, quasiment chaque année. Et le MEDEF avait hurlé avec le baron Antoine Salière de la Brosse, en disant c'est un scandale, etc., etc. Donc on a fait, il y a eu toutes les manifestations. Mais ce qui est encore plus aberrant, c'est que le système est en train de se détruire, quoi.
Non, et puis il faut rappeler quand même qu'au départ, comme elle l'a très bien dit, c'était un système mutualisé, c'est-à-dire que les intermittents du spectacle n'avaient pas un régime différent du régime d'assurance chômage général. 800 millions, effectivement, sur 14 millions de déficit actuellement pour l'UNEDIC elle-même, ça représente pas grand-chose. Hein. En cloisonnant le système, en séparant le système, on a de toute façon aggravé le déficit, et enfin on produit finalement du déficit pour les intermittents du spectacle. Sachant, et on parle bien sûr pas des gens qui profitent très largement du système et des chaînes de télévision entre autres.
Très bien, je vous remercie. Donc on va passer donc à ACDC, donc les autres chiffres du chômage. Il y a dans la politique un domaine qui doit se situer au-dessus de la polémique, j'allais dire au-dessus des débats partisans, l'emploi, poursuivit le chef du gouvernement. dans une diatribe contre la gauche et le collectif ACDC, autre chiffre du chômage, qui établit le taux de chômage en France à plus du double des chiffres publiés par le ministère de l'Emploi. Je pense que notre pays mérite mieux que ces polémiques, que ces mensonges, que ces jeux stériles, a-t-il insisté, égratignant au passage les journalistes de la presse nationale. Messieurs les journalistes français, à défaut parfois de prêter une oreille attentive à ce que dit le gouvernement, lisez un peu la presse étrangère et un peu moins les organismes plus ou moins spontanés qui, comme les champignons, fleurissent en temps de moisissure, a-t-il dit, citant l'exemple d'un quotidien britannique vantant l'exemplarité de la France en matière de recherche. L'organisme visé, ACDC, a été créé à l'initiative du réseau d'alerte contre les inégalités qui réunit des chercheurs, des associations de chômeurs, dont AC qui est bien partie prenante dans cette histoire, et les syndicats de l'ANPE et de l'INSEE. Alors je vous propose d'écouter l'introduction de la note numéro 3, donc de la troisième conférence de presse de ACDC, qui était axée sur l'indemnisation du chômage.
Le collectif ACDC, pour la troisième fois, vous présente une note sur l'évolution des statistiques concernant le chômage. Aujourd'hui, on a focalisé notre travail sur l'assurance chômage, sur l'indemnisation du chômage, plus exactement. Donc l'UNEDIC a annoncé la semaine dernière une prévision budgétaire excédentaire pour 2007. Je crois que c'est 2,5 milliards d'euros d'excédent. Ce que montre donc l'étude des données publiées par l'UNEDIC, c'est que ça résulte, comme Pierre Confialdi va le montrer, d'une restriction assez importante des droits à indemnisation sur la dernière période. Donc voilà, je vais passer la parole à Pierre. Ensuite, on répondra aux questions et on pourra aborder la question notamment de la controverse sur le taux de chômage de BIT et la publication ou non des résultats de l'enquête emploi 2006.
Donc cette note s'intitule « Les chômeurs en déficit » puisque, bon, comme vient de le dire Thomas, Sinuedic affiche un excédent qui est en croissance. La conséquence pour les chômeurs, c'est qu'il y a de moins en moins de chômeurs indemnisés et que le niveau de leurs allocations stagne ou diminue. Donc on a repris dans cette note les données publiées par l'UNEDIC. Hein. La première chose, je pense, qu'il faut dire, c'est que si on prend les données brutes, donc on a donc 1,85 million de chômeurs indemnisés par les ACDIC à la fin de l'année 2006 et un chiffre à peine supérieur, 2,17 millions de chômeurs. Ça, c'est le chiffre qu'a donné le gouvernement lors de la publication des chiffres. Donc on pourrait se dire qu'il y a finalement une très grande majorité de chômeurs qui perçoivent une allocation, parce que ça représente plus de 85% des demandeurs d'emploi, de la statistique officielle, disons, du chômage. Et en réalité, quand on regarde les chiffres de l'UNEDIC, on constate que moins de la moitié, précisément 47,5% des chômeurs, sont indemnisés à la fin de l'année 2006. Tout cela pourquoi ? Parce que en fait, l'UNEDIC dans son calcul, bien sûr prend en compte les chômeurs qui sont indemnisés dans le cadre du régime d'assurance au numérateur, mais au dénominateur intègre l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits à la NPE. Et comme on l'avait montré dans notre première note, le chiffre est bien plus important, quasiment le double, si on prend ce dénominateur. Donc moins d'un chômeur sur deux aujourd'hui indemnisé. Et cette proportion a fortement chuté depuis 2003. C'est ce qu'indique le premier graphique de la note. Hein. En valeur absolue, on a une baisse, plutôt en valeur relative, on a une baisse de près de 19% entre fin 2003 et fin 2006. Ça veut dire que plus de 430 000 chômeurs en moins ont été indemnisés entre ces deux dates. Alors que le nombre d'inscrits à l'NPE, lui, n'a baissé que de 8%. La conséquence, c'est que le taux de couverture par l'assurance chômage est passé, donc, encore une fois, entre fin 2003 et fin 2006, de 54% à 47,5%. C'est le niveau le plus bas observé depuis 5 ans. Alors, vous avez dans le graphique une rétrospective un peu plus longue qui montre qu'il y a eu des hauts et bas. Mais on est vraiment sur un point qui est tout à fait bas aujourd'hui. On a le même profil, si je puis dire, concernant les données financières de l'UNEDIC, puisque elles aussi ont diminué entre 2004 et 2006. Les dépenses d'indemnisation, si on reprend les chiffres de l'UNEDIC, ont diminué de plus de 10%. Et si on rapproche ces deux données, le nombre de chômeurs indemnisés et la baisse des dépenses d'indemnisation, ça se traduit par une quasi-stagnation sur les dernières années de l'allocation moyenne perçue par les chômeurs en pouvoir d'achat, une fois l'inflation déduite. Alors nous, on a retraduit ça en termes de SMIC horaire brut, pour voir ce que représentait à peu près l'indemnisation moyenne par rapport au niveau du SMIC. Et vous voyez que aujourd'hui, c'est un peu plus de 120 SMIC horaires, oui, c'est plus en euros, heureusement, pour les chômeurs, ce qui représente environ 80% d'un SMIC mensuel à temps complet. Donc un niveau qui reste faible. Alors, on a peu d'informations sur la façon dont se distribue en quelque sorte le niveau de ces allocations, mais des travaux qui avaient été réalisés il y a quelques années avaient montré que la proportion de chômeurs qui percevaient moins d'un demi-SMIC avait très fortement augmenté entre le début des années 90 et 97. Il était passé de moins de 15% à plus de 35%, et on peut penser, au vu des évolutions récentes, donc là j'en profite pour vous signaler que vous avez une fiche sur l'historique de l'indemnisation du chômage, la fiche numéro 1, qui est très complète, qui retrace toute l'évolution de la réglementation concernant l'indemnisation du chômage, qui, et on peut penser donc, en vue des évolutions récentes, que cette proportion est au moins aussi importante aujourd'hui, c'est-à-dire entre 30% et 40% des chômeurs probablement ne perçoivent moins d'un demi-SMIC, évidemment, lorsqu'ils sont indemnisés, puisque ça ne concerne bien sûr que les chômeurs qui perçoivent une indemnisation. Si on s'intéresse maintenant aux différences de couverture selon différents critères, j'allais dire sans grande surprise, on constate que à la fois les jeunes, les femmes et les salariés les moins qualifiés perçoivent relativement moins l'allocation chômage que les autres catégories de salariés. Leur taux de couverture est plus faible. Alors ça ne tient pas à une discrimination évidemment spécifique à leur regard, ça tient aux règles de l'indemnisation du chômage qui, compte tenu maintenant de la multiplication des filières d'indemnisation et des critères de perception d'allocation qui sont de plus en plus, qui exigent des durées d'emploi de plus en plus longues. Donc ces catégories, les jeunes, les femmes, les salariés les moins qualifiés, occupent davantage d'emplois précaires, des durées d'emploi plus courtes, et donc sont moins éligibles à l'assurance chômage que les autres catégories de salariés. Donc vous avez deux graphiques, page 4, qui présentent les taux de couverture entre hommes et femmes à différents âges. Donc vous voyez que quel que soit l'âge, les femmes perçoivent moins souvent l'allocation chômage que les hommes. Et vous constatez aussi que l'écart entre les cadres et les professions intermédiaires d'une part et les ouvriers et les employés d'autre part est relativement important, de l'ordre de 10 points dans le taux de couverture. Alors ces chiffres sont issus de l'enquête emploi. Contrairement à ce qui est indiqué dans la note, on peut, à partir des données d'UNEDIC, avoir notamment des différences de taux de couverture selon le sexe, mais on a préféré avoir une source homogène, disons, pour établir ces graphiques. L'idée, c'est simplement de montrer qu'il y a des différences importantes, donc selon qu'on est jeune, femme ou le type d'emploi qu'on occupe. Donc moins d'un chômeur sur deux, ça signifie que, monsieur de la Palais aurait dit, plus d'un chômeur sur deux est exclu d'indemnisation du chômage. Alors qu'est-ce qui se passe pour ces chômeurs qui ne bénéficient d'aucune indemnisation? Ils sont très peu rattrapés par d'autres filets de protection sociale. 10% des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire 20% des exclus, si vous voulez, d'indemnisation, perçoivent une allocation dite, du régime dit de solidarité. Donc je les énumère brièvement, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation d'insertion qui vient d'être remplacée par l'allocation temporaire d'attente et l'allocation équivalente de retraite. Alors, le niveau de ces prestations est beaucoup plus faible que celui de l'indemnisation moyenne des chômeurs qui perçoivent une indemnité dans le cadre de la CEDIC, quelques chiffres. Le montant de l'allocation de solidarité spécifique, qui est un montant journalier, représente aujourd'hui 1,75 SMIC horaire. C'est-à-dire que pour une journée, un chômeur qui perçoit de l'ASS reçoit l'équivalent de moins de 2 heures de SMIC. Et pour une personne qui perçoit l'allocation d'insertion, c'est 1,23 heures de SMIC, c'est-à-dire un peu plus d'une heure de SMIC pour vivre par jour. Ça vous donne une idée de la faiblesse de ces allocations. L'autre chose qu'il faut signaler, c'est que depuis 20 ans, le niveau de ces allocations a considérablement décroché de toutes les normes qu'on peut avoir en tête, que ce soit le SMIC, le niveau de moyen ou l'allocation moyenne. Alors par rapport à l'allocation moyenne, il y a 20 ans, l'allocation de solidarité spécifique représentait plus de 60% d'indemnité perçue par les chômeurs assurés dans le cadre du régime d'assurance chômage, et c'est moins de 50% en 2006. On a une baisse tout aussi considérable pour l'allocation d'insertion, qui représentait plus de 50% de l'indemnité assédique moyenne en 1986, et aujourd'hui c'est moins de 35%. Donc vous avez dans la fiche numéro 3 quelques graphiques qui retracent sur les 20 dernières années justement l'évolution de ces différentes prestations en pourcentage du SMIC horaire brut. Donc je ne vais pas vous lire tous les chiffres, mais on voit très nettement, à part l'épisode, j'allais dire, consécutif plutôt au mouvement des chômeurs de l'hiver 97-98, qui avait permis de revaloriser, enfin de remonter, disons, l'allocation de solidarité à son niveau de la fin des années 80, on voit que la baisse s'est poursuivie ensuite, hein, que ce soit pour l'ASS, l'AI. L'allocation d'insertion. Alors, il reste un tout dernier filet pour les chômeurs qui n'ont pas d'assurance, qui ne sont pas couverts par l'assurance chômage et qui ne bénéficient pas d'une allocation dite de solidarité, c'est évidemment le RMI. Hein. Le RMI est encore à un niveau plus faible que l'ASS. Donc, pareil, vous avez le graphique qui, dans la fiche 3, vous donne le montant du RMI, qui, de la même façon, a baissé de façon de façon continue depuis sa création. Il représentait 68 SMIC horaires en 89 et c'est aujourd'hui 53 SMIC horaires par mois, hein, pour une personne seule aujourd'hui au RMI. Alors une autre précision qu'il faut apporter, c'est que c'est certaines de ces prestations, notamment l'allocation de solidarité spécifique, le RMI, sont accordées sous condition de ressources du ménage. Donc c'est pas un droit individuel du chômeur. Donc ça écarte un certain nombre de personnes qui malgré tout ne perçoivent aucune indemnisation. Et pour le RMI, il faut aussi signaler que l'âge auquel on peut percevoir le RMI en France est un des plus élevés d'Europe, hein, vous le savez, c'est 25 ans. Ce qui signifie qu'évidemment, quand on n'a pas atteint cet âge, on n'a quasiment aucune indemnisation, enfin, on n'a pas le droit au RMI. Et comme on l'a vu précédemment, de très nombreux jeunes sont exclus d'indemnisation du chômage, n'ont pas non plus d'allocation de solidarité, ben, jusqu'à 25 ans, ils se retrouvent, eux, tout à fait sans filet s'ils sont au chômage. Donc la conséquence de cette régression de l'indemnisation du chômage et de cette érosion, cette baisse même des allocations de solidarité, c'est que de plus en plus de chômeurs sont récupérés de fait par le dernier filet aujourd'hui de la protection sociale, qui est le RMI, et à la suite des réformes, enfin du protocole de l'UNEDIC, les plus récents protocoles UNEDIC, on voit que le nombre d'allocataires du RMI a fortement augmenté sur les dernières années. Donc vous avez le graphique, page 6. Le dernier point, c'est le point de septembre 2006, hein, pas encore celui de décembre. Bon, il y a une légère stabilisation, mais on voit que, grosso modo, le nombre de RMI n'a quasiment jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Donc moins d'un chômeur sur jeu indemnisé, à peine 10% des demandeurs d'emploi qui sont éligibles à une prestation dite de solidarité. La conséquence, c'est que de plus en plus de chômeurs sont finalement obligés de travailler, de prendre des petits boulots pour arriver à boucler les fins de mois. Donc c'est ce que montre le graphique page 7. Hein, donc dans le jargon des statistiques ANPE, ce sont les chômeurs en activité réduite. Donc vous voyez que depuis une quinzaine d'années, la proportion...
Monsieur Calvin, Monsieur Luther, Monsieur Lutin, Monsieur Calvert, je ne veux pas être...
Aujourd'hui, voyez-vous le prestige de la liberté, c'est mieux que celui de la propriété.
Et oui, c'était Jacques Dutronc. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris-Pluriel 106.3 FM dans l'émission d'AC avec donc Christophe Ludo-Gilles et Claude à la technique. Très bien. Nous allons maintenant passer sur le problème de donc un article de l'APEC sur, après avoir fait une étude sur la discrimination donc à la pauvreté en fait, hein, à la précarité. Plus on est pauvre et moins on est crédible au niveau d'un employeur. Dis-moi Christophe, c'en est où ces histoires?
Non, c'est encore pire que ça, parce que enfin, t'as résumé la situation sous un angle pas vraiment top. En fait, c'est un article qui est paru dans Job Éthique, enfin un site qui revendique et qui est de Corinne Zerbib. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà son point de vue, hein, je cite, hein, la pénurie de compétences fait rage, nous dit-on, pourtant de très nombreux recruteurs refusent d'embaucher des demandeurs d'emploi. Une discrimination larvée qui touche plus de 4 millions de personnes, à quand une taxation des récalcitrants, dit-elle, point d'interrogation. Et pourquoi elle est amenée à réfléchir sur ce sujet? Parce qu'en fait, elle entend depuis quelques semaines le spectre de la pénurie qui est brandi à chaque détour de conférence. On est en campagne électorale, etc. Il nous manque des ressources humaines, etc., etc., dans tous les secteurs. Donc ça ne concerne pas simplement les métiers dits en tension, en langage hypocrite, les métiers où il y a manque beaucoup de monde, comme par exemple le bâtiment. Elle dit, voilà, nous on a fait une étude récente au niveau de l'APEC, l'APEC qui est l'organisme donc, qui est chargé d'analyser entre autres et de suivre les cadres. Et cette étude, publiée récemment, vient de confirmer un diagnostic sans appel. La France manque de bras, bon ça on le savait, pardon, de cerveau. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on nous dit, eh ben, c'est pas la fuite des cerveaux en France, on manque de cerveau, et oui. Alors... ces gens-là se sont dit, mais comment ça se fait qu'on en soit arrivé là? Donc elle, en tant qu'enquêtrice, et puis tous ses collègues, ils ont été, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont un peu interrogé l'ensemble des entreprises, et ils ont fait un premier constat, beaucoup d'entre elles rechignaient à répondre. C'est-à-dire que sur un panel de 100 à 120 entreprises, il y en avait 15, 20, 30 maximum qui souhaitaient communiquer sur le sujet. Alors... ils se sont dit, mais est-ce que ces gens-là, notamment dans les grands groupes, ne savent même pas quelle est leur filiale qui embauche et quelle est leur stratégie globale, hein? Peut-être qu'il y a aussi, quand on embauche ou on n'embauche pas, on a un peu de peur de communiquer parce que ça peut-être vouloir dire que notre entreprise n'est pas si bien que ça. Et alors, et en fait, elle a été voir un certain nombre de PDG spécialisés dans tout ce qui est du domaine de la communication et des ressources humaines. Il dit, non. La pénurie se trouve davantage dans les fantasmes des recruteurs qui lisent et étudient les articles dans la presse par rapport à la réalité. Je cite Daniel Print, qui est PDG d'une agence de communication. En d'autres termes, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande qui devient cruciale. Et en fait, on en arrive à la chose suivante, c'est que il y a une nouvelle mode parmi les directeurs des ressources humaines, c'est qu'ils ne veulent plus recruter des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que certains d'entre eux le disent tout de go, pour des cadres expérimentés, nous ne recrutons que des gens actuellement en poste. Alors on peut se demander, dans ces conditions, Corinne Zerbib se dit, mais est-ce que c'est à dire finalement qu'un chômeur est un compétent ou un caractériel? Donc ça veut dire qu'il y aurait 4 millions d'incompétents de caractériel en France. Voilà un bon sujet de méditation. Et elle dit, ben voilà, on parle quasiment jamais de ce sujet des recrutements des cadres en France, sachant que ce statut est unique au monde, Hein. Le statut 4, c'est qu'un statut qui n'existe qu'en France, hein, je le précise, sous forme d'indemnisation, de reconnaissance sociale, enfin, pas de reconnaissance sociale, mais de type, de typologie d'aide à l'accompagnement à l'emploi, etc. Qu'est-ce qu'on va faire des bacs plus 5 et autres, et puis des gens qui ont fait des BTS et tout? Et enfin, elle termine, à quand une taxation des entreprises qui refuseraient d'emblée de recruter des demandeurs d'emploi? Moi, j'ai qu'une envie de dire, bravo, enfin, on enfonce le clou sur un sujet tabou et qui est une réalité bien française.
Ludo, tu veux intervenir?
Oui, alors moi je voulais juste intervenir pour dire que bon, je trouvais cet article très très bien, très sympa et tout, mais bon, il y a quand même des choses qui me dérangent, hein, c'est que on brandit régulièrement le spectre de la pénurie de main-d'œuvre et de main-d'œuvre qualifiée. Il faut quand même rappeler, ne serait-ce que pour prendre cet exemple, hein, que Alcatel Lucent a licencié un nombre impressionnant. Très impressionnant de salariés sur les sites français, et que c'est une grande partie de ces salariés sont des cadres et des gens qui travaillent dans des domaines à haute valeur ajoutée technologique. Bon, l'actualité fait que à Airbus, on s'est aperçu aussi qu'on va supprimer un certain nombre d'emplois dans un domaine qualifié, que le luxe. Récemment, l'entreprise de luxe a aussi délocalisé des usines de confection hautement qualifiées, et que les informaticiens souffrent énormément des aléas on ne sait même plus comment appeler, si c'est la conjoncture, si c'est la délocalisation, les segments de marché. Il y a eu l'exemple à Grenoble récemment. Et que finalement, ce genre d'étude qui se veut rationnelle, tout ça, machin, et ces genres d'effets d'annonce ressemblent de plus en plus à de la propagande qui est faite par le gouvernement pour dire, mais vous voyez qu'en France, on a toujours besoin de gens. Pas du tout. Il faut continuer à se former, il faut être dans la compétition, il faut être dans ceci, il faut être dans cela. Sauf que concrètement, ça n'a strictement aucun sens. C'est dans des métiers très spécifiques. Comme tu le rappelles toi-même, les employeurs, comme elle le rappelle dans son article, les employeurs embauchent au compte-gouttes des gens qui ne sont pas au chômage et qui sont en poste. Finalement, on s'aperçoit quand même que être cadre, ça protège pas du tout, et que dans les années à venir, ça ne protégera encore moins les gens de l'emploi, et ça protégera moins les délocalisations concerneront aussi les cadres et aussi les entreprises informatiques, par exemple, qui sont en concurrence avec les Indiens, souffrent énormément. Donc c'est bien gentil de ce type d'article. Et effectivement, au niveau de l'employeur, il y a un problème de recrutement vis-à-vis des chômeurs, des cadres chômeurs, mais la pénurie de main-d'œuvre, pas trop, quoi.
Mais c'est vrai que les chasseurs de tête ont tendance à délocaliser les salariés qui sont déjà en poste, c'est-à-dire à les prendre chez eux pour les former, mais parce qu'ils sont déjà actifs et déjà motivés par le travail, puisqu'ils travaillent dans le présent, hein, et que ça suppose plus ou moins que les chômeurs sont des inactifs, donc démotivés et plus facilement, c'est plus difficile pour eux de se mettre au travail.
Il y a une erreur de parcours, et que cette erreur de parcours leur est de toute façon imputable.
C'est ça, tout à fait.
Absolument.
Très bien. Alors, tu parlais justement des licenciements, etc. Il y en a pas mal qui vont se faire à Airbus, Ludo.
Écoute.
Est-ce que c'est un problème industriel, ou c'est simplement un problème de compétences ou de différences de différents entre les employeurs, les directeurs?
Non, mais en fait, c'est pas tout à fait un. Non, c'est pas un problème industriel. Au départ, c'est un problème effectivement d'investissement, de mésentente à la tête d'Airbus. C'est un plantage de la direction, un gros plantage qui a entraîné un déficit record et qui risque de coûter très très cher, en fait, non seulement à Airbus, mais évidemment à tous les salariés, hein, puisque quand même c'est 4200 emplois en France et 3500 en Allemagne qui sont concernés. Il faut ajouter à ça que la crise que connaît Airbus provoque un retard des commandes d'avionneurs, et qu'évidemment les avionneurs ont le droit à partir de ce moment-là de revenir sur leur commande à partir du moment où leur commande n'est pas honorée en date et en heure, donc ils risquent de perdre encore des marchés, ce qui explique effectivement la suppression des emplois. Mais il y a un autre phénomène derrière qui est celui que finalement EADS et Airbus vont en profiter de la chose pour se restructurer et pour confier un certain nombre de leurs activités en sous-traitance, et en sous-traitance délocalisée, c'est-à-dire des entreprises qui seront en Pologne, en Inde. Ils sont en train de mettre directement certains sites en concurrence, certains sites français qui resteront avec des entreprises en Inde.
Très bien. Très bien, vas-y Christophe. Oui, tu voulais intervenir.
Oui, je voulais juste dire en quelques secondes que pendant ce temps-là, l'ancienne équipe de direction, notamment et actionnaire actuel comme Monsieur Lagardère, ont profité de ces restructurations et ces retards de commandes pour en être informés au préalable avant que ça soit rendu public et encaisser de très confortables plus-values en vendant leur stock option. C'est la morale de l'histoire.
Oui, voilà. Et juste pour revenir sur Alcatel-Lucent, il faut savoir qu'Alcatel-Lucent, la suppression des emplois est aussi une des conséquences de la fusion et des restructurations qui ont suivi la fusion.
D'accord. Donc plus il y a d'actionnaires qui se font de l'argent et moins il y a de l'emploi et plus les gens sont licenciés. C'est un peu ça l'histoire.
En quelque sorte.
D'ailleurs, on savait très bien que quand on licenciait, la bourse, l'action en bourse de l'entreprise qui licenciait montait des fois pour atteindre des records aussi. Donc c'est quand même assez...
Et puis c'est une politique mondiale. C'est l'OCDE qui veut que les gens qui soient dans la précarité, dans la pauvreté, le soient le plus.
Voilà. Alors très bien. Donc on va passer maintenant à une nouvelle rubrique qui va maintenant se faire toutes les semaines. C'est la rubrique Parade. Donc Marc va nous en parler un petit peu.
Et voici la rubrique Parade. Parade, c'est la permanence anti-radiation.
Alors Marc, je t'écoute.
Non, c'est pas Marc.
Ah, pardon.
C'est Catherine.
Bonjour Catherine.
Bonsoir.
Excuse-moi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, je vais vous parler de Parade. Donc, Parade, c'est une permanence anti-radiation qui a été créée au mois de mai de 2006 oui. Par trois associations de chômeurs, AC, APS et MNCP. C'est-à-dire, c'est pour contrer les problèmes qu'ont les chômeurs après la mise en place du nouveau dispositif de contrôle de radiation et de sanctions.
Oui, d'accord. Et ça se passe à quel endroit ?
Donc, ça a lieu tous les lundis après-midi de 14h à 16h à la Bourse du Travail, rue du Château d'Eau, 5 rue du Château d'Eau. Donc, oui. On reçoit les chômeurs qui ont des difficultés.
Et vous leur procurez des conseils, des aides ?
Oui, des conseils. On les aide à faire les courriers si besoin est. On les accompagne s'ils le souhaitent, soit dans les ACDIC ou alors aux commissions paritaires si leur situation implique qu'ils soient convoqués à une commission paritaire.
D'accord. Est-ce qu'il y a une aide juridique à propos de quand il y a des problèmes avec les employeurs ou des problèmes de prud'homme, etc. Est-ce qu'il y a une aide de votre part
pour
constituer des dossiers juridiques pour des défenses de chômeurs en conflit avec leurs employeurs? Non, pas trop. Je sais pas comment.
Ben non. Oui. On s'occupe des situations qui concernent le chômeur quand il a été radié.
Ah oui, c'est que la radiation, d'accord. Donc il y a pas
radiation, sanction, contrôle,
d'accord.
Contrôle abusif.
D'accord.
Et donc, sinon les prud'hommes, si ça implique les prud'hommes, on les oriente vers les
syndicats,
les
inspecteurs du travail. D'accord. Très bien.
Donc, on a aussi, avant la fin de l'année, on a eu le concours, depuis la rentrée de septembre 2006, on a le concours d'un cabinet d'avocats qui fait ça la plupart du temps bénévolement, oui. Qui aide dans les dossiers les plus épineux quand on voit que le dossier est plus délicat, on soumet la situation à un cabinet d'avocats.
D'accord.
Qui s'occupe du social, qui a choisi de travailler dans les problèmes sociaux,
oui.
de ce genre-là.
D'accord. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose à propos de... Donc c'est tous les lundis, donc je rappelle...
Tous les lundis, oui.
De 14h à 16h, c'est ça?
Oui.
À la Bourse du Travail, hein, on est d'accord?
Oui.
Très bien. Il y a un téléphone, on peut vous joindre pour prendre rendez-vous, si on y va sans rendez-vous
Non, on y va sans rendez-vous, il faut faire juste attention, c'est-à-dire qu'à l'entrée de la Bourse du Travail, il y a un grand panneau sur lequel... Il y a les différentes salles qui sont indiquées.
Oui.
Et il faut chercher le panneau où il y a marqué SNUANPE FSU et nous, on ajoute permanence parade.
D'accord.
Parce qu'on n'a jamais la même salle qui nous est attribuée. Donc, il faut bien chercher le mot permanence parade.
D'accord.
Et sinon, aujourd'hui, je voulais parler en plus, comme on est en lien avec les syndicats de la NPE,
oui.
Les syndicats de la NPE ont rédigé avec nous, suite à une rencontre qu'on a eue le 15 février,
oui.
Une déclaration... où il signalait que syndiqués, non syndiqués de la NPE et donc organisation syndicale SNUANPE, SUDANPE, chômeurs, donc toujours ACAPES, MNCP, nous constatons l'aggravation des contrôles et des sanctions. Je ne sais pas si je vais lire tout le texte.
Non, c'est peut-être pas la peine, mais effectivement, on sait, nous qui sommes donc initiés à AC, puisque nous y appartenons, hein, on est au courant qu'effectivement, il y a plus de sanctions, plus de flicage dans ce domaine, hein, c'est clair.
Donc,
oui. De toute façon, comme
le texte, la NPE va le faire circuler dans les agences.
Oui.
Et nous-mêmes, je pense qu'il va être sur notre site.
Absolument.
Assez.
Tout à fait.
Et donc, on va voir si par la suite, de toute façon, il va être aussi transmis à la presse.
Oui, bien sûr.
Et on va voir si on fait un appel à la signature, c'est-à-dire que ça signale la pression aussi sur les agents NPE pour les transformer en police sociale des chômeurs.
Oui, d'accord.
Et instaurer un climat de peur, et donc on demande le maintien du service public de l'emploi.
Oui.
Et donc l'arrêt des profits des officines privées, quoi, l'arrêt de la privatisation des services de la NPE. Voilà.
D'accord.
Et donc ce texte il sera donc sur notre site.
D'ailleurs que je vais rappeler très vite en même temps en disant qu'effectivement la note numéro 3 ainsi que les autres notes d'ACDC sera également sur notre site. Le site c'est www.mode-d-emploi.net. Donc si tous les gens qui nous écoutent peuvent aller là sur ce site.
D'accord. Oui. Pardon.
Voilà, c'est d'assez. Ludo, tu peux le rappeler, non?
Oui, parce que moi, je n'ai pas
de... www.chômage.ac-chômage.eu.
ac-chômage.org. Voilà, c'est ça. Merci, Claude, qui nous parlait en hors micro. Très bien. Mais écoute, je te remercie pour ton intervention. Tu es bien sûr invité dans le cadre de cette rubrique parade à intervenir avec tes camarades tous les vendredis. Hein.
D'accord.
Voilà. Donc on refera à la fin de l'émission un rappel sur cette intervention sur parade. Hein. Voilà.
Voilà.
Je te remercie beaucoup. Au revoir.
Au revoir, Catherine. Merci.
Au revoir.
Très bien. Alors on va continuer cette émission. La chanson on la passera à la fin parce qu'on n'aura pas le temps de tout traiter sinon. Dis-moi, Ludo. Est-ce que tu voulais intervenir peut-être sur ce que...
Non.
C'est moi qui... J'ai pas fumé la moquette, mais presque. Donc c'était Christophe, pardon, qui voulait nous parler des stagiaires.
Voilà. Oui, des stagiaires. Effectivement, parce que... Enfin, un petit coucou à nos collègues de Génération Précaire. Pourquoi ? Parce que enfin une première victoire juridique de stagiaires exploités. En effet, le tribunal correctionnel de Paris a condamné aujourd'hui à 6 mois de prison avec sursis un employeur parisien qui employait des stagiaires à des postes de travail effectifs, confirmant une décision déjà rendue par défaut en septembre. En fait, monsieur l'employeur en question avait été contrôlé par la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle, donc l'inspection du travail, le 6 mai 2003, et les inspecteurs, dans un premier temps, avaient relevé que les stagiaires de Challenge Qualité, le nom de la boîte, effectuaient des tâches qui paraissaient très au-delà de ce que doit représenter un stage, dans la mesure où les intéressés avaient été affectés parfois pendant plusieurs mois à des missions relevant de l'objet même de la société, révèle le jugement. Le collectif Génération Précaire, dont nous avions reçu Lionel il y a quelques mois, s'est félicité dans un communiqué d'une victoire en justice pour les stagiaires. Mais bien évidemment, le combat continue. En effet, Dominique de Villepin a indiqué qu'il était conscient des abus envers les stagiaires non rétribués, sans pour autant fixer de minimum obligatoire. Il lui reste 2 mois pour donner cette direction aux partenaires sociaux, Sony encore Génération Précaire. On peut en sourire, sachant qu'on est encore en période électorale et que c'est pas prêt de se terminer et que cette histoire-là, on nous la rencontrera encore l'année prochaine.
Très bien, merci Christophe. Je crois que vous vouliez intervenir également sur les logements en Ile-de-France. Alors c'est la loi SRU qui n'est pas appliquée partout. Il y a 3% des logements sociaux qui sont construits à Neuilly. Alors qu'il y en a peut-être... tout le monde n'applique pas la loi.
Mais qui est le maire de Neuilly?
Le maire de Neuilly, je crois pas.
Moi, qui c'est donc?
C'est pas un certain Sahar quelque chose?
Et donc tu voulais. Hasard, mais c'est sénégalais ça.
Faisons pas de. Voilà, d'accord. Pas d'antrisme, s'il vous plaît.
D'accord. Non, pas
d'antrisme. Pas de racisme non plus.
pas parce qu'on est sénégalais qu'on fait du racisme, non, mais. Enfin bref. Non, un peu plus de sérieux, parce que là je sens que mes petits camarades sont un petit peu excités. Donc je vais revenir à un sujet nettement plus sérieux. Vous savez que. Au mois de décembre, pendant que les grands rédacteurs en chef très indépendants de nos presses nationales étaient en vacances, on a parlé des Don Quichotte. C'est l'intérêt de la trêve des confiseurs. Et donc, on a eu le discours compassionnel de la droite sur ces petits SDF et un système qui casse, comme dirait quelqu'un.
Quel comédien ce Christophe, quand même.
T'étais pas intermittent du spectacle, toi? T'étais pas à la cérémonie des Césars?
Donc, un peu plus sérieusement, j'essaie de me concentrer parce que...
Pour finir cette émission.
Donc, alors que le Parlement... Excusez-nous, je suis vraiment désolé, il y a deux insus mordables. Bien. Alors que le Parlement vient d'adopter donc le fameux texte du projet de loi sur le droit au logement opposable, Gilles arrête de faire le pitre, -5. qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que pendant ce débat-là, un certain nombre d'élus, et pas seulement de l'opposition, ont critiqué le fait que les loyers ont beau exploser, les prix de l'immobilier s'envoler en Île-de-France du fait de la rareté des offres. Aucune reprise de la construction ne se manifeste dans la région alors qu'elle est repartie partout ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un gros délire en Île-de-France qui est absolument extraordinaire et qui est un fait unique sur le territoire national. Et ça, personne ne le sait. C'est que, par exemple, en Languedoc-Roussillon, on construit 9 logements pour 1000 habitants.
Voilà, pas beaucoup, ça.
Mais bon, sauf qu'en Île-de-France, où il y a 12 millions d'habitants, c'est-à-dire près de 20% sur 2% du territoire national, tu as 20% de la population, on construit 3 logements pour 1000 habitants. Alors, tu vas me dire, mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là?
Oui,
c'est calamiteux. Ce qui se passe, c'est que contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas le conseil régional qui est en cause, car le conseil régional n'a pas la compétence spécifique ni l'autorité dans le domaine du logement. Alors qu'en province, les politiques de l'habitat sont mises en œuvre par les communautés d'agglomération. En Île-de-France, si tu veux, ça c'est spécifique à cette région, les responsabilités sont éclatées entre l'État, la région, les départements et les communes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je cite certains députés. Dans un système aussi complexe, chacun peut bloquer la machine, a pointé Gilles Carrez, rapporteur pour l'UMP. Il y a un problème de gouvernance, a dit un autre député de ce parti. Un autre député, mais cette fois-ci du Parti Socialiste, a rappelé que c'était sous Raffarin que les députés de son groupe avaient souhaité que soit reconnu au Conseil régional la compétence du logement, puisque personne ne veut prendre à bras-le-corps le problème et avoir, je dirais, pouvoir de décision au final. Donc, c'est un problème hautement politique, parce que rien n'a été fait, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui en Île-de-France toujours le même problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, puisque chacun fait dans son coin. Et comment on en est arrivé là? Tout simplement parce que, devinez quoi, c'est le département des Hauts-de-Seine, présidé par Monsieur Nicolas Sarkozy, qui s'oppose à toute mutualisation des compétences. Voilà. Donc le dernier exemple en date est très simple, c'est, ça concerne le quartier d'affaires de la Défense. Je vous rappelle que le quartier d'affaires de la Défense est un conglomérat de communes, hein, oui. Parce que c'est une taxe professionnelle très importante.
Dont le président est Nicolas Sarkozy.
Et résultat des courses, qu'est-ce qui se passe à cause de ce système cynique qui consiste à dire, comme j'ai la priorité du logement et de l'habitat sur ce petit territoire, je fais ce que je veux et je fais ma loi. Et comme il n'y a pas de pilote dans l'avion, ben devinez quoi, la ville de Nanterre, par exemple, qui est parti communiste, est exclue que de la taxe professionnelle que peut lui rapporter la Défense, alors qu'elle donne 90 hectares de territoire. Voilà, par exemple. Et la conclusion de ça est très simple. Elle est d'un certain nombre de députés communistes. Nous avons un gros problème. En Seine-Saint-Denis, nous sommes un département qui accueille les populations les plus pauvres de la région. Et on en est arrivé là parce qu'il y a des égoïsmes locaux. Et enfin, les communistes ont terminé leur propos en disant la nécessité que l'État intervienne comme régulateur si nous ne voulons donc pas que le droit au logement opposable demeure virtuel. On ne pouvait pas mieux le dire. Enfin, nous, on a dénoncé à plusieurs reprises dans cette émission que le droit au logement opposable, c'était du pipeau compassionnel. Voilà, par une réalité pour le moins complexe, la chose qui se confirme.
Moi, j'avais une remarque, c'est quand même une conséquence directe des lois de décentralisation qui ont créé quand même des petits fiefs locaux. Donc on a un petit exemple de ce qu'un petit un petit maire, mais oui, c'est un peu ça, un petit maire ou un petit peut faire, peut bloquer la machine. Et deuxième chose, bon, que les députés du MP disent qu'il y a un problème dans la machine, il n'y a pas de problème, sauf qu'il ferait bien d'appliquer à leur commune les quotas de 20% de logement. Et la dernière chose, c'est que on peut pas demander à la fois à l'État d'être régulateur ou d'imposer ce qu'il devrait faire, et en même temps prétendre confier la gestion des logements sociaux au conseil régional, sachant que lui confier la compétence, c'est bien, mais il faut aussi lui confier les budgets, ce qui ne va pas de soi. Et puis on se retrouvera avec le même problème, c'est qu'avec un conseil régional majoritairement, on va dire à droite, on n'aura pas de construction de logements sociaux dans les communes concernées. Donc il y aura de toute façon une inégalité de territoire. Donc voilà, les conséquences de la politique de Raffarin, c'est ça.
Très bien, donc on sait où on va voter, parce qu'avec la droite, c'est pas toujours génial. Très bien, alors quelques annonces pour finir cette émission. La note numéro 3, donc sur l'indemnisation du chômage donc de ACDC, et également... tout ce qui concerne parade, donc c'est le lundi après-midi de 14h à 16h pour les conseils aux chômeurs par rapport aux indemnisations et aux radiations. Ça se retrouvera sur le site d'AC, principalement AC, donc c'est ac-chômage.org. Je vais y arriver, merci Claude. Et puis également, vous pouvez trouver ça sur notre site donc de mode d'emploi, www.modeemploiel-d-emploi.net. Voilà. Une deuxième petite annonce, le 8 mars, journée internationale des luttes des femmes pour leurs droits, contre les violences conjugales, contre les viols. Il y a 48 000 femmes qui sont violées par année en France, les mariages forcés, contre la pauvreté, 80% des salariés pauvres sont des femmes, etc., etc. Elles se battent donc, c'est le 8 mars, c'est la journée internationale des luttes des droits pour la femme. Hein, voilà. Ensuite, il y a l'annonce également, on parlait des logements sociaux à l'instant, c'est la marche pour le logement, c'est le samedi 10 mars 2007, départ 14h place de la Réunion dans le 19e arrondissement. Allez-y, parce qu'il faut lutter contre les expulsions par rapport au logement. Il faut être nombreux pour soutenir les sans-logis et également ceux qui pourraient perdre leur emploi demain. Voilà, cette émission se termine. Merci messieurs de l'avoir faite. Merci messieurs dames de l'avoir écoutée. On vous embrasse bien sûr. On finit par un petit rock endiablé.
Crésus, le magicien. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Bonsoir.